parti. Alors, peut-être certains de nos lecteurs ne connaissent pas Acile. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le groupe?
Alors, Acile, c'est ce qu'on appelle, nous, de la musique métal ethnique et expérimentale. C'est un projet qui a vu le jour en 2006 et qui est l'extension d'un projet qui est né en Algérie, qui s'appelait Mass à l'époque, et dont Amine était l'instigateur. Depuis, on a sorti un EP et deux albums, dont un qu'on s'apprête à sortir le 1er juin. Et tout simplement, la musique d'Acile, c'est le mélange du folklore traditionnel algérien et de la musique traditionnelle algérienne avec le métal, en fait. Tout simplement, si on devait le définir de manière simple.
Et géographiquement, vous êtes basé en France, en Algérie, entre les deux ?
Oui, nous avons grandi en Algérie, on est venu s'installer en France.
Donc là, votre base de repli, à partir de là auquel vous donnez des concerts, etc.
C'est Paris.
D'accord. Donc tu le disais justement, et d'ailleurs on voit au niveau promo ou au niveau de différentes pages, que ce soit site internet ou Facebook, vous mettez pas mal en avant donc le parti folk entre guillemets du son, donc la partie donc tradition musicale algérienne et nord-africaine, tu l'as dit. Est-ce que sans là il y a aucune, c'est pas justement dans la perception péjorative, mais est-ce qu'il y a un côté revendication, un côté mise en avant de cette identité qui vous fait aussi
pas spécialement une revendication, mais un désir d'exporter vraiment notre culture et vraiment essayer de donner un aspect positif en exprimant ce qu'on estime être positif dans cette culture là en valeur et en contenu. Donc par Algebra, on a voulu exprimer l'apport de la civilisation arabo-musulmane. C'est une civilisation qui a eu son heure de gloire et qui a apporté pas mal à notre civilisation actuelle, la civilisation humaine.
Par les mathématiques, donc exactement, ça vous met bien avant, monsieur.
Exactement, c'était un petit clin d'œil à ça. Mais on se cache pas aussi d'exprimer ce qui peut faire nos défauts, nos peurs, mais tout en mettant en valeur qu'est-ce qu'il y a de positif. Mais in fine, c'est un message positif à travers notre culture.
D'accord. Mais finalement, dans la démarche, c'est une orientalisation d'un métal ou c'est une métallisation d'un son plus oriental? En fait, qu'est-ce qu'il y a en premier? C'est l'œuf et la poule, mais...
J'ai envie de dire, c'est assez spontané. Et ces deux aspects-là de la musique, on les a eu au cours de toute notre vie. Donc c'est ancré entre nous. C'est ancré en nous, pardon. Et quand on essaye de composer un morceau, il y a inévitablement les deux influences qui viennent en même temps. Mais la démarche de composition dans Acile, c'est plutôt partir d'un style musical d'une ethnie en Algérie. L'Algérie est un pays qui est constitué de beaucoup d'ethnies, hein, comme le font tous les pays. Hein. C'est un conglomérat de plusieurs ethnies. Et nous, avec notre petite culture de ce qu'on a de notre musique, on prend un style et on essaie de développer un morceau autour pour que ça transpire vraiment le terroir d'où ça vient. En fait.
Donc c'est plutôt la base, c'est plutôt
des rythmes et des mélodies
traditionnelles.
Ouais.
D'accord. Okay.
Même les riffs de guitare, quand ils viennent, c'est vraiment calé sur des rythmiques de telle ou telle ethnie.
Et au niveau métal, là aussi, vous avez un panel assez large. Ça peut être un métal orienté, je dirais, assez moderne, mais avec des touches extrêmes de par le chant.
Ouais.
Là aussi, c'est naturel. Ce côté extrême fait partie de l'entité du groupe et vous revendiquez aussi.
C'est naturel et ça fait partie de la schizophrénie d'Acile, c'est qu'on est assez diversifié dans nos goûts et dans les musiques qu'on apprécie, et même dans le métal c'est assez divers. Donc tu vas trouver des riffcore, tu vas trouver des choses un petit peu plus rock, un petit peu plus douces, tu vas trouver des trucs vachement meshuga parce que c'est des mesures composées ou bien des trucs stoner, mais la base quand même c'est la musique traditionnelle, et cette diversité là naît de par la diversité justement des styles déjà à la base.
D'accord. Au niveau du chant aussi, donc vous alternez et arabe et anglais.
Exact, oui.
Euh, comment dire, comment ça se, comment les deux se connectent les uns l'un ou l'autre sur les morceaux?
Les chants en arabe, c'est majoritairement des chants collectifs et c'est des c'est très caractéristique des ethnies en Algérie où ce sont des chants religieux en fait scandés à l'unisson. Donc c'est des lieux communs algériens, c'est du folklore. Les messages ils sont plus sur la partie en anglais où on raconte vraiment une histoire.
Le chant arabe ça reste un élément de contextualisation supplémentaire. Et puis le véritable, enfin pas le véritable, mais le message plus singulier de la chanson, ça va être parlé par l'anglais.
C'est ça, en fait, c'est de la contextualisation artistique en ce qui concerne les chants. Et en ce qui concerne le message et le contenu des paroles, c'est plus la partie anglaise.
D'accord. Finalement, si on revient un peu en arrière, et donc sur toute la période d'Algebra, donc que ce soit la compo, l'enregistrement, la sortie, les concerts donnés après, et s'il y avait un moment, une image, un souvenir en particulier qui émerge de cette période-là, ça c'est lequel?
Tu parles d'Aftermath ou de
non, uniquement la partie Algebra.
La partie Algebra, moi je suis arrivé juste après la sortie.
D'accord.
Mais Asil était un groupe ami de longue date, on se connaît depuis longtemps et j'ai côtoyé les gars bien avant mon intégration au groupe. Bon, s'il y a un truc qui sort vraiment, c'est vraiment la complicité qu'il y a entre nous de par les horizons, enfin le background qu'on partage, enfin le fait qu'on vienne quasiment du même patelin en Algérie font qu'il y a une complicité que je n'avais pas connue dans mes précédents groupes en termes d'unité en fait et de délire, parce qu'on délire beaucoup dans Asil. Mais oui, si je devais ressortir un truc, c'est vraiment la cohésion quoi.
Finalement, puis Algebra, si sauf ma part, est sorti en 2012. Il y a eu 4 ans.
Oui.
C'est un cycle naturel pour le groupe. Il faut 3-4 ans pour finir un chapitre. Là aussi, vous avez avancé à votre rythme.
C'est pas naturel. Quoi,
voilà, donc c'est fait comme vous pouvez aussi avec vos moyens qui sont.
Certes, oui, mais on pourrait faire plus vite. C'est juste que là, on a pris du temps parce que il a été difficile d'organiser les enregistrements, surtout des instruments traditionnels. On est parti faire de la recherche en Algérie. On a sollicité vachement notre réseau pour trouver des gens qui maîtrisent vraiment les instruments pour pouvoir capter l'authenticité de quelqu'un qui a voué sa vie, tu vois, à cet instrument-là. Même si nous, on sait en jouer, on n'aura jamais le feeling de quelqu'un qui est vraiment pro et spécialiste et c'est un Shaolin de l'instrument. Donc on a sollicité notre réseau, on est parti dans des contrées vraiment éloignées en Algérie aussi pour l'aventure humaine. C'est quelque chose qu'on met vachement en avant dans le groupe et cette aventure humaine nous a mené dans des contrées éloignées en Algérie. Donc ce process là prend pas mal de temps en termes d'organisation, même si l'enregistrement dure très peu, hein, les gens, tu leur expliques une fois les choses, ils te sortent en one shot le résultat et c'était vachement impressionnant. Il y a eu ces deux tournées.
Donc il faut vous imaginer en 4x4 dans le désert avec tout le matos d'enregistrement.
Ouais, exactement.
Jusqu'à trouver le
pillage avec. On n'y allait pas tous ensemble, on y allait en manière plus humble avec un petit ordinateur et 2-3 micros. C'était suffisant pour capter l'ambiance. Mais c'est vrai que quand t'arrives avec.
C'est unplugged quoi.
Exactement, mais c'est vrai que quand t'arrives dans un village, parce que c'était des villages, quand t'arrives dans un village et que toi t'arrives avec ton ordi et tes micros et tu confrontes un mec qui a joué cet instrument toute sa vie sans forcément l'enregistrer, c'est vachement enrichissant parce que c'est vachement humiliant dans le sens humilité, c'est-à-dire que tu prends la mesure des choses et tu vois la simplicité à la source quoi.
Mais les musiciens qui vont enregistrer pour vous là, ils ont besoin de savoir ce que vous faites vous et écouter la musique du groupe parce que ça peut être un choc aussi culturel assez particulier ou vous évitez de trop mettre en avant n'aviez pas Algebra dans les mains voilà ce qu'on fait quoi.
Si enfin il y a c'est une démarche assez honnête quand même, mais effectivement il y a une pédagogie. T'abordes pas les gens directement avec un album de Cannibal Corpse en disant écoute il y a beaucoup de travail là-dedans et les mecs se sont vraiment cassés le cul à le faire alors que le mec n'a jamais entendu de rock de sa vie.
Voilà, c'est ça.
Ça peut être brutal un petit peu. Donc on a une démarche assez pédagogue et même au-delà de ça, c'est le cercle de nos amis, donc ils nous font confiance.
Oui.
Mais c'est vrai que quand tu leur fais écouter le résultat, ils sont étonnés parce qu'effectivement, tu as le côté percussif et agressif du métal, mais
je pense... Ils reconnaissent bien leur truc, quoi.
Ouais, ils reconnaissent leur truc dedans et du coup, ils s'approprient le truc et c'est là le moment magique, en fait.
D'accord, donc potentiellement, vous avez quand même besoin... Vous pourriez aller plus vite si tout était samplé ou que sais-je, vous aviez des facilités à côté, s'il y avait, voilà. Mais bon, votre processus et l'authenticité que vous voulez donner prend du temps.
Oui.
Donc ouais, imagine pour la suite qu'il vous faudra quand même un cycle aussi de 3 ans ou...
Non, c'est très bien de recourir à... Je critique vraiment pas, mais c'est très bien de recourir à des samples et tout ce genre de choses. Parce que la technologie nous l'offre, donc faut bien y aller. Et ça permet aussi de franchir d'autres frontières. Mais ça nous intéresse pas de faire de la programmation dans notre chambre et pas vivre ce qu'il y a autour, c'est pas intéressant. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les concerts, c'est confronter le public de manière positive, vraiment chercher la cohésion avec le public, vivre les moments avec des autres musiciens et échanger là-dessus. Donc c'est vachement intéressant, nous, dans notre approche, le côté humain. Donc on va pas s'en passer.
D'accord. Donc sur un plan business, de mémoire, Algebra était sorti sur MEO Music.
Oui.
Là, sauf faire ma part, vous êtes en autoprod.
Yes.
Pourquoi BMO, peut-être qu'ils n'existent plus, tout simplement.
Je sais
pas trop.
Non, c'est, on a très bien travaillé mais avec MNO, mais on passe juste en autoprod pour avoir un peu plus le contrôle dessus.
C'était une obligation parce qu'il fallait, dans le music business actuel qui est quand même très... qui fait pas de quartier.
Oui.
C'était un moyen de maîtriser votre destin ou parce que il y a... Donc c'est par obligation ou par choix ou un peu des...
Ah, c'est un choix, mais complètement. Oui, c'est un désir de contrôle et aussi de... C'est comme un... C'est notre bébé, en fait, et on a envie vraiment d'avoir le contrôle dessus. Maintenant... Enfin, de nos jours, effectivement, plus le temps passe et plus les labels, c'est... Enfin, que t'en aies ou que t'en aies pas, ça dépend de... Enfin, leur travail, c'est de faire de la communication. Après, si tu choisis toi-même de faire ta communication, c'est un choix, c'est du travail, mais voilà, ça peut être un choix qui peut être pris. En distrib, on passe par Season of Mist parce que nous, on n'a pas de réseau pour faire de la distrib.
Oui, on peut le faire tourner Fnac et les JV.
Exactement. Enfin, par contre, en termes de communication, on est capable de gérer et d'orienter exactement comme on veut, justement.
D'accord. En général, qu'est-ce que tu peux nous dire des sessions d'enregistrement d'Aftermath? Et en particulier, pourquoi ce choix donc de Frédéric Gervais d'Oracle,
ouais,
dans son studio Enosis? Est-ce que... Vous êtes allé à lui parce que, Oracle, je sais pas, vous avez beaucoup, on peut trouver de nombreuses similitudes, pas forcément dans le son, mais dans, enfin, il y a des aspects communs au groupe.
Très simple. On a en la personne de Étienne Gonin qui officie au sein d'Oracle, un musicien de session qui nous accompagne de temps en temps lorsque soit notre bassiste ou notre guitariste n'est pas disponible. Et donc on a une forte relation d'amitié avec Étienne et il fait partie d'Oracle. Et donc il nous a dit, tiens, il y a Fred qui produit et on a écouté l'album d'Oracle qui est une tuerie monstrueuse en termes de son. Je ne sais pas si tu l'as écouté.
Oui, j'ai fait son interview pour la sortie. Ouais.
Cet album est fantastique et je me dis, et on s'est dit, bon, on va essayer. On a mis en comparaison un studio finlandais. Et finalement, on a décidé de le faire mixer par Fred. Et là, on a été agréablement surpris et très impressionné. C'est sa qualité d'écoute et de retranscription de ce que tu veux exactement.
Il a fait que le mixage ou il a assuré l'enregistrement?
Non, il a fait le mix.
Il a fait le mix,
ouais, il a fait que le mix.
Mais l'enregistrement, c'est vous qui le gérez?
Ouais, l'enregistrement, c'est nous.
Vous fournissez les pistes finales et après, lui...
Exactement, ouais.
D'accord.
Il fait du réamping.
Ouais, c'est ça, voilà.
Exactement. Nous, on a fourni les pistes de chant, de musique traditionnelle, tout ça.
Et ça, vous l'avez géré chez vous, avec
chez nous, ouais, en studio, ouais.
D'accord.
On a un studio en France et en Algérie aussi.
Mm-hmm.
Donc, soit on se déplace chez les gens avec notre matos, ou bien on a un studio aussi en Algérie où on fait venir les gens pour enregistrer. Et le mastering, c'est fait par Studio Fredman en Suède. Donc le résultat, on en est très très content et il va au-delà de nos espérances en termes de qualité.
De ton point de vue, quelle évolution, différence, maturité tu verrais entre Algebra et Aftermath?
Il y a eu deux tournées entre temps, européennes, ouais. Avec Leaves Eyes Atrocity et avec Dark Tranquility. On a aussi fait, on a partagé les scènes avec Soulfly, avec LVT, avec plein d'autres groupes et ça c'est vachement enrichissant parce que.
Je rebondis là-dessus. Ouais. Hors Dark Tranquility, les autres c'est du folk, mais soit folk typé norvégien, soit folk typé celtique, suisse, etc. Et vous arrivez un peu avec un folk aussi, mais totalement différent, oriental. Ça connecte comment sur les publics européens?
Perso, je trouve que c'est exactement la même approche. C'est-à-dire qu'il y a un désir de revenir aux racines et d'intégrer ça dans un métal plus moderne. Donc, je pense que les gens se disent « Ah, c'est du folk ». Enfin, ils ont conscience que c'est du folk parce qu'ils l'ont déjà vu, mais ils voient que c'est du folk différemment. Donc, c'est ça qui interpelle. Et quand ils voient des Derbuka, des Bendir ou des Carcabou sur scène, donc déjà, ça attire. Ils ont la curiosité de venir voir et de voir ce que c'est. Ça interpelle. Et le résultat et le feedback des auditeurs, c'est soit t'aimes pas, en fait. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de ouais, bof. En général, si je dois remonter dans mes souvenirs, on a fait un festival en Allemagne où vraiment les gens ont vraiment apprécié la prestation, mais je pense qu'ils voient que c'est un folk, mais différent, et du coup, ça leur paraît, je pense, intéressant.
D'accord, mais. Ça peut surprendre si vous passez après, je sais pas, Corpiclani ou comme les VT, c'est assez. Il y a des nombreux points communs aussi, mais c'est vrai que c'est.
C'est très celtique, ouais, voilà. Les VT. Mais, in fine, c'est la même approche.
Et donc, tu disais, finalement, en ayant eu ces deux tournées, voir les autres bosser, tous les soirs voir un set d'autres groupes, etc. Ça vous a fait prendre conscience de quoi? Qu'est-ce qui marche bien sur scène ou marche pas sur scène? Qu'est-ce qui, enfin voilà, en quoi ça a nourri? Tu dis, la différence entre les deux, c'est eu deux tournées. En quoi ça vous a nourri ou ça a pu faire évoluer votre façon d'agir pour
quand t'es groupe de première partie et que tu fais une tournée avec un groupe que t'apprécies, parce que tous les groupes qu'on a côtoyés, c'était des groupes qu'on appréciait. Tu passes en mode scanner, c'est-à-dire que tu vois tout ce qui se fait, tout ce qu'ils font et comment ils le font et comment tu peux t'améliorer toi pour arriver à ce niveau-là. C'est comme ça que la vidéo, elle a fait son apparition dans Acile. Dark Tranquility fait de la vidéo. Le truc impressionnant avec Dark Tranquility, c'est que c'est des mecs super simples et super humbles à qui on a demandé des tuyaux sur ça et ils nous ont volontiers partagé les technologies qu'ils utilisaient, comment ils faisaient. Résultat, aujourd'hui, le nouveau set d'Acile, il y a de la vidéo de bout en bout, quoi, du début à la fin.
D'accord, vous avez vu en réel l'avantage du truc, quoi.
Exactement.
L'avantage.
Il y avait un désir auparavant, ouais, de le faire, mais, après, mais c'était flou, on ne sait pas comment.
C'est devant un mur et tu ne sais pas s'il faut commencer par ci, par ça.
Ouais,
par...
Et Martin de Dark Tranquility m'a dit écoute, je te donne toutes les clés parce que ça vous évitera de passer par les galères par lesquelles on est passé pour le mettre en place. Et j'ai trouvé ça super, en fait. Et ça a créé une relation entre nous que je n'escomptais pas avant de commencer la tournée, tu vois. Les mecs sont super humains et on a passé une super tournée avec eux, donc c'est super enrichissant et ça te permet de grandir aussi artistiquement et d'aller plus loin. En tout cas, moi aujourd'hui j'estime que je suis pas encore arrivé à, enfin je suis pas encore lassé du truc, je vois encore des perspectives d'évolution artistique intéressantes.
D'accord. Tu le mentionnais, il y avait donc deux, j'aimerais maintenant mettre l'accent sur deux aspects visuels.
Oui.
D'abord, premièrement, comment vous travaillez en général la pochette pour Algebra et pour Aftermath, est-ce qu'il y a une différence entre les deux, sachant que, a priori, c'est fait en interne, c'est Reda qui fait?
C'est ça, oui. En fait, on essaie d'internaliser un maximum de choses dans Acile, dont le travail graphique, le travail de la vidéo, les clips, c'est nous qui les produisons. Et notre influence, c'est tout en même temps. Donc. C'est normal qu'on veuille internaliser pour vraiment avoir le contrôle sur ce qu'on a envie d'exprimer. La pochette, c'est Reda qui s'en occupe.
Est-ce que là, vous avez modifié par exemple le logo? Oui, il était beaucoup dialogue. Plus arabisant et là il est plus voilà.
Oui, bah et c'est en fonction du contexte. L'algèbre ça part de la civilisation arabo-musulmane, donc normal. Mm-hmm. Et là on parle plus de l'historique algérien depuis l'antiquité, donc l'époque berbère. Donc les caractères du nouveau logo c'est des caractères berbères mais exprimés en acide en français en fait.
D'accord.
En fait t'as les trois aspects. T'as des caractères berbères d'un mot arabe avec l'anglais en fait. Donc ça t'as tous les aspects en même temps en fait.
Ok, donc c'est l'identité du groupe, c'est son nom,
ouais.
Sa démarche, pas forcément le graphisme de son logo. Quoi.
Pas forcément, non.
D'accord. Okay. Mais donc ça, vous en discutez ou lui, il réfléchit, il travaille de son côté, puis il propose des trucs et puis vous...
Ah bon, mais c'est un travail collaboratif, on discute de tout et on fait valider par tout le monde. C'est-à-dire que c'est une aventure où il y a cinq moussaillons au bord du navire et tout tient parce que tout le monde bosse dans la même direction.
Et le visage, c'est un de vous ou...
Non.
Non. D'accord.
Je sais pas. Ah, mais par exemple, le visage sur, on a l'album parle de l'historique algérien à travers 9 personnages, et le visage est censé représenter un Algérien moyen et Aftermath la conséquence. Donc cet Algérien est la conséquence de son historique, avec un masque sur le visage qui symbolise, c'est métaphorique, qui symbolise. Ses valeurs, ses peurs, ses doutes, ses certitudes, les choses avec lesquelles il brille, ses défauts, et ça constitue un masque en fait à double tranchant. C'est un masque qui en même temps le protège mais en même temps le confine dans ce qu'il est devenu en fait. Donc
alors justement tu en parlais, ce qui construit l'identité d'un peuple, et donc ça s'applique à tous les pays et tous les citoyens de chacun de ces pays, c'est l'histoire.
Ouais.
Donc vous traitez de l'histoire, donc quand on traite de l'histoire d'il y a longtemps, bon, c'est pas gênant, vous traitez sur des, vous approchez de sujets beaucoup plus récents, mm-hmm. Il y a un site qui s'appelle La Bataille de Constantine.
Exact.
Qui, dans le contexte français, peut parfois être un sujet dangereux. Alors, pas seulement la Bataille de Constantine, mais dès qu'on s'approche du plus récent,
ouais.
Alors, la Bataille de Constantine, donc 1836, la colonisation française, voilà, si un jour, si c'est pas déjà fait, vous parlez de la guerre d'Algérie d'indépendance, ça peut. Enfin, est-ce que c'est un élément que vous prenez en compte en disant bon, à ces sujets sensibles, même entre les deux pays, on voit dans les relations entre les deux pays, c'est parfois assez compliqué.
Et c'est le meilleur moment de l'interview parce que comme tous les autres journalistes qui ont posé exactement la même question, il y a un contre-pied en fait. La bataille de Constantine, on ne parle pas de la bataille qui a eu lieu en 1836. Ah. Effectivement, la bataille où les Français ont pris Constantine. Non, Battle of Constantine, c'est un contre-pied. Et ça symbolise en fait une bataille qu'il y a eu en interne, justement, les Algériens, à travers l'association des théologues, théologiens, pardon, musulmans algériens qui ont réformé justement la religion, qui voyaient qu'elle reposait en partie sur des préceptes archaïques. Et donc, il y a eu vraiment une bataille en interne pour ça. Cette association était basée cette association de théologie était basée en Constantine, et à sa tête c'était Ibn Badis qui a vraiment réformé la religion et qui a fait que aujourd'hui en Algérie on n'est pas wahhabite par exemple.
C'est quelle période?
C'est 1926,
c'est quand début
20e, ouais, c'est ça.
D'accord. Et vous saviez qu'en appelant le titre La Bataille de Constantine,
effectivement,
qui est le nom entre guillemets officiel d'un
épisode du
19e, ça donnerait du grain à moudre.
Exactement.
Moi j'ai vérifié s'il n'y avait pas un épisode, si vous parliez. Bon, c'est peut-être à mon tort, mais j'ai essayé de comprendre les paroles, comme elles sont en chant extrême, c'est pas forcément simple à comprendre.
Ouais.
J'ai essayé de voir justement si vous faisiez référence à tel élément, si c'était plutôt. Parce qu'il y a eu, bien sûr des combats à Constantine pour la guerre d'Algérie du XXe siècle. Enfin,
En fait, on est très. Comme je t'ai dit, notre message il est assez universaliste et. On voit d'un mauvais œil le fait de vouloir contrôler les masses avec la religion.
D'accord.
Et
Ça fait du boulot pour toutes les religions. Hein.
Oui, mais. Faut pas oublier que, et franchement, je pense que c'est un fait, lorsqu'on y réfléchit un petit peu, les différents dépassements ou les moutons noirs dans la religion, c'est toujours une minorité. En général, la grosse majorité est d'accord pour être en paix.
Bien sûr.
Et voilà, donc Cette réforme-là, elle était venue aussi pour éliminer justement tout ce qui était superflu et qui n'avait pas de racines justement dans notre religion et qui l'empêchait d'être moderne. Donc cette bataille a eu lieu en interne et c'était une bataille idéologique en fait.
D'accord. Ok, bon, bah, je suis tombé dans le piège comme tout le monde, c'était fait pour.
Exactement, c'était pas le dernier, je pense.
Ah, bah, je pense, ouais. À un moment, ça a permis de clarifier ces aspects-là. Donc, toujours sur l'aspect visuel, est-ce qu'il y a des éléments vidéo dans les tuyaux, sachant que voilà, vous aviez, pour le bois de Gébra, il y avait eu des trucs, enfin, du travail, on voyait que le groupe continuait à avancer, il y a eu Ungratefulness qui était déjà beaucoup plus concept construit, tourné avec un niveau encore, enfin voilà, on voyait le groupe progresser. Il y a quoi dans les tuyaux pour Aftermath?
On est en train de bosser sur un clip et
ça sera... Je vais dire le titre ou
oui,
pour
oui.
Quelle chanson, oui.
C'est la deuxième, tout simplement, Mercurial, donc qui est à notre sens le titre le plus représentatif du contenu de l'album. Et même en termes de concept, ça ne représente pas un personnage en particulier. Autant le premier, ça parle de Massinissa, donc c'était un roi berbère qui a unifié la Numidie, qui est l'ancienne Algérie. Autant le deuxième titre est un titre qui est un petit peu plus global et qui parle de la personnalité algérienne de manière plus globale.
D'accord. Ok. Donc ça peut sortir dans les semaines et les mois qui viennent ou...
Ouais, je pense que d'ici fin juin, ça verra le jour.
D'ici fin juin, d'accord. Dernière question avant un petit quiz qu'on a juste pour mieux connaître l'artiste et ses goûts. Finalement, les comparaisons il suffit de lire un peu la presse ou Facebook ou autre pour voir que le groupe, naturellement ou pas, est relativement comparé à Miras, Orphan Land, Arcan, etc. C'est flatteur pour vous ou ça vous gonfle ou non?
Non, c'est bien, c'est des groupes qu'on côtoie déjà. Mirat et Arcan sont des amis. Non, c'est bien qu'on soit comparé. Après, là, le point où on insiste, nous, en tant qu'Acide, c'est que c'est pas de la musique orientale, en fait. C'est pas du métal oriental. Pour nous, quand tu dis oriental, c'est vraiment attaché à une partie Moyen-Orient, voire Asie. Et on ne nie pas l'influence qu'ont eu les Arabes et la civilisation arabo-musulmane sur l'Algérie. Elle est là, l'influence. Mais il y a plein d'éléments qu'on utilise qui datent de la période pré-islamique et qui sont vraiment... qui ont été créés en Algérie.
C'est quoi, métal maghreb, métal algérien, un peu tout ça, quoi.
Ethnique, et ça exprime l'héritage culturel algérien. Tu vois, par exemple, le goumbri, qui est une basse à trois cordes, c'est dans l'ouest algérien, limite Maroc, donc c'est ça vient de là et pas du Moyen-Orient. Et là où un Mirat ou un Arcan pourrait briller par son mélange avec de la musique un petit peu plus moyen-orientale, en fait.
D'accord, oui, c'est pas les mille et une nuits.
Exactement. Okay.
Donc voilà, juste quelques questions pour. Il n'y a pas de bonnes nouvelles réponses, hein, c'est juste des goûts, tes goûts musicaux, ou des certains éléments qui ont pu faire. Qui te plaisent ou voilà, qui t'accrochent. C'est toujours difficile, mais bon, c'est histoire de donner une idée. S'il y avait une chanson préférée à sortir, pas du groupe, hein, t'as eu une chanson, ta chanson préférée.
Ah, c'est dur ça. C'est dur, voilà. Je peux en donner trois au moins.
Deux.
Deux. Ah, les deux qui me viennent, hein, c'est. C'est dur, putain.
Je sais, je me suis appliqué moi-même l'exercice, hein, donc j'en trouve deux, mais. Et une, je suis pas arrivé. Donc.
Ouais, ça doit être Master of Puppets. Et il y a un titre qui me plaît beaucoup de Nevermore, c'est This Godless Endeavor, le titre éponyme de l'album. C'est vraiment un chef-d'œuvre pour moi, cette chanson.
Et puis c'est bien bourrin, quoi. Enfin, c'est bien.
Ouais, c'est.
Premier album acheté, bon, est-ce que tu t'en souviens?
Master of Puppets.
Le dernier qui t'a acheté, qui t'a accroché l'oreille? Ou qui t'a, regarde, il faut l'avoir acheté, qui te donne très envie de l'acheter.
C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que j'ai écouté récemment? Bah, l'album d'Oracle. Éclat. C'est un très très bon album et qui n'a pas à rougir de groupes scandinaves qui sont dans la même veine comme Soen ou un autre groupe qui s'appelle Les Prousses aussi. c'est cette veine là ouais, c'est plus prog.
Oracle à lire ma chronique rédigée par moi-même sur le site, j'ai bien aimé, oui, c'est très sympa, et lire l'interview d'un de ses membres. Est-ce qu'il y a eu une étincelle, je sais pas, un clip vidéo, une image, un album, quelque chose qui a créé ta fibre musicienne? Pourquoi tu joues de la guitare 20 ans plus tard?
Tout le monde va croire que je suis un fan extrême de Metallica, mais c'est le cas. Et c'est ouais, ça, c'est soit le clip d'Interson Man ou le clip de One. Je pense que ouais, dans ma jeunesse, c'était vraiment des marqueurs pour moi qui m'ont vraiment influencé, qui m'ont vraiment donné envie de m'engouffrer encore plus dedans.
Ok. Titre de la discographie d'Acil que tu aimes le moins? Enfin, t'es arrivé après Algebra, donc bon.
Eh ben, figure-toi que c'est des amis de longue date et j'étais vraiment fan de ce qu'ils faisaient. En fait, j'appréciais vraiment leur musique. Donc, ça va être dur pour moi de donner un. C'est comme si tu me disais quel est le titre le moins, celui que t'aimes le moins de Metallica. Il y en a pas.
Oh, il y a forcément. Je t'en trouve au moins plein.
Hein. Ah ouais.
Ouais. J'ai le dernier album.
On parle pas de ça.
Enfin voilà, mais. Non, ils
on parle de Metallica, on parle pas de.
Non,
de non, non, le titre d'Acid que j'aime le moins, franchement, là, je pourrais
pas
dire.
Non, mais pas possible.
Alors, je vais pas balancer, mais il y en a dans le groupe, effectivement, qui disent oh putain, pas celui-là, je le déteste. Et moi, je lui dis mais arrête, c'est un chef-d'œuvre.
Bon, mais non, mais heureux homme, hein, c'est toujours sympa. Finalement, vous avez la possibilité de donner un concert n'importe où dans le monde. Vous allez où?
Alger.
Vous l'avez jamais fait?
Pas encore.
C'est un objectif ou c'est prévu déjà? Enfin, ou c'est.
C'est plus ou moins prévu, mais bon. Organiser un concert
c'est...
là-bas, c'est
qu'est-ce
pas.
Si vous bloquez, c'est quoi le contexte politico? Tout
non, non, on en a fait un Constantine, on en a fait un Tlemcen, qui sont deux grandes villes algériennes.
Bah ouais.
L'accueil était monstrueux. Il y a des gens qui sont déplacés à plus de 1000 km pour venir nous voir et ça nous a vraiment ému et ça nous a vraiment foutu la pression. On s'attendait pas à ce que des gens se déplacent aussi loin pour venir nous voir.
Et donc ce qui vous bloque c'est quoi?
Non, c'est juste l'organisation, c'est une histoire d'organisation sur place quoi.
Là, idéalement il faudrait pouvoir faire une tournée de quelques dates au moins dans le pays, non?
Ouais, mais je t'ai dit, à chaque fois qu'il y a un concert tout le monde se déplace pour venir le voir, donc à la limite la tournée mais effectivement ouais, ça serait le rêve de faire même les trois pays quoi. Faire une tournée maghrébine, pourquoi pas?
D'accord.
Parce qu'on a une fanbase très solide là-bas.
Un appel aux promoteurs.
Ouais, mais bon, c'est dans les tuyaux, enfin, c'est dans les déserts d'acide de toute façon.
D'accord, bah, on souhaite d'y arriver. Et ton album de l'année 2015?
Mon album de l'année 2015.
Il n'y a pas eu Metallica, désolé.
Il y a eu quoi en 2015? Je suis nul en date en fait, je suis incapable de te dire ce qui est sorti en 2015. Il n'y a pas eu un Soil Work en 2015?
Le double, je sais pas si
le double, ouais. Le double, il m'a vachement plu.
Peut-être en début d'année ou 2014, mais on va dire ça au pire, c'est pas grave. Pour quelques mois, ça passera.
Soil Work, ouais, j'aime beaucoup ce groupe-là.
Nickel. Bah merci.
Merci à toi.
Avec plaisir.
Super.